France Culture. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Des bonnes choses qui font aussi dialoguer les cuisines grâce à la présence du chef Maurice Acco, qu'on retrouvera comme chaque semaine à 12h25 pour sa chronique. Bonjour Maurice.
Bonjour Caroline.
Aujourd'hui, vous allez nous parler du vinaigre. J'espère que c'est pas notre reportage du jour qui vous a inspiré.
Un tout petit peu, mais j'ai été plus loin que le vin du coup.
Oui, c'est ça, parce que c'est loin d'être du vinaigre, le vin dont on va parler. L'une des meilleures sommelières du monde, Pascaline Lepelletier, qu'on a reçue dans cette émission, adore ce domaine et considère ses vins comme les plus savoureux de la région. C'est d'ailleurs elle qui nous y a emmenés et qui nous l'a fait connaître. La région, c'est celle des Pays de la Loire. Nous sommes à côté du village de Savenières, au sud d'Angers, au sommet du prestigieux coteau de la Roche aux Moines, sur la rive droite de la Loire. Ici, Tessa, la propriétaire des lieux, car c'est une femme, a le même nom que le lieu dit où elle se trouve, la Roche. Elle cultive ses vignes en agriculture biologique et en sort chaque année 2 cuvées de vin blanc sec. Nous l'avons rencontrée à la fin des vendanges sur son domaine, le domaine aux Moines. Mais d'ailleurs, pourquoi les Moines ?
Donc la Roche aux Moines, c'est un lieu dit. Et la Roche, parce que vous êtes sur un rocher, et aux Moines, parce que ce sont les moines qui ont planté la vigne ici au Moyen-Âge. Et nous, on est le domaine aux moines, mais je m'appelle la Roche. Donc vous pouvez faire un gros amalgame si vous voulez. C'est un pur hasard.
Voilà. Donc ce sont les moines qui ont planté les premières vignes.
1130 au 132, au Moyen-Âge. D'accord. Et puis après, les moines ont été là jusqu'à la Révolution française. Les révolutionnaires sont venus. Les têtes des moines, elles ont été guillotinées. Et après, ça a été revendu comme bien national. Voilà, en 1793. Il y a différents propriétaires qui se sont succédés. Il y en a un qui est un petit peu plus connu que les autres parce que c'était Monsieur Benz, des voitures. Son épouse cherchait un domaine viticole et elle est tombée sous le charme du domaine. Ils ont acheté donc ici, mais son épouse est tombée malade et donc est décédée ici au domaine. Et après, son épouse n'étant plus là et comme c'était le projet de son épouse, il est reparti en Allemagne. Et donc, il a revendu à Madame Faure et c'est mes parents qui ont racheté aux descendantes de Madame Faure.
Et alors, vos parents,
Tessa ?
Oui.
Ils ont racheté en 1981 et c'est pas une date anodine. C'est l'élection de François Mitterrand.
Exactement.
C'est lié ? C'est tout à fait lié parce que le lendemain, ils étaient dans le bureau de mon père en disant on voudrait vendre.
Ils ont pris peur ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce que c'était le socialisme qui est arrivé en France et c'était à l'époque où en 80, si vous vous souvenez, dans le projet de Mitterrand, il y avait aussi dans son premier gouvernement des communistes qui arrivaient au gouvernement. Donc ils ont pris un petit peu peur et donc les gens qui avaient un petit peu envie de quitter le territoire à ce moment-là. Voilà.
Donc d'une certaine façon, vos parents ont acheté ici et vous, vous y êtes aujourd'hui 44 ans plus tard, grâce à l'élection de François Mitterrand.
Oui, et je bois un coup à son élection, à sa naissance, à sa mort, à chaque moment de sa vie.
Parce que
c'est quand même grâce à lui qu'on est là. Donc c'est bien.
On va visiter ce domaine aux moines.
Eh ben oui, parce qu'on a aussi des petits jardins à la française et on a aussi des roses.
Alors,
et on a aussi des vignes, parce qu'on a un parc à l'intérieur du domaine qui a 8 hectares au total, 4 hectares de vignes et 4 hectares de parc et jardin.
Qu'est-ce que vous faites comme vin ici sur ce domaine ?
Alors ici, on fait principalement du vin blanc sec, c'est du chenin 100% et l'appellation c'est Savenières Roche aux Moines. Roche aux Moines parce que c'est le nom du lieu dit la Roche et puis les moines. Et Savenières, c'est le nom du petit village qui est à 15 km d'Angers. Rive droite de la Loire, pour avoir une exposition plein sud. Les meilleurs coteaux.
Mais c'est pas trop ensoleillé, donc pas trop chaud ces dernières années quand
Alors,
même, on se plaint de la chaleur, non ?
Oui, c'est pour ça que les vendanges se sont un peu avancées. Voilà, cette année, en 2025, les vendanges ont démarré fin août. Parce que justement, il faisait beaucoup trop chaud et pour avoir des raisins à bonne maturité avec une belle acidité, il fallait commencer fin août. Pour avoir un bel équilibre. Sinon, on faisait des vins trop sucrés et ça aurait, comme on fait des vins naturels, les fermentations n'iraient pas jusqu'au bout et du coup, on aurait du sucre résiduel et ça ferait des vins moelleux. Voilà.
Alors que normalement, en année, disons, pas trop chaude, c'est plutôt septembre jusqu'à mi-octobre les vendanges.
Exactement, oui. L'année dernière, on avait fini le 9 octobre.
Alors que là, mi-septembre, vous avez fini?
Oui.
Ah. Et c'est la première fois? Parce que c'est pas non plus la première année où il fait si chaud.
Non, c'est...
Il y a le tracteur qui arrive. Attendez, on va le laisser passer le tracteur parce que... Il vient pas jusqu'à nous, hein. Ah si, il tourne jusqu'à nous. On va le laisser entrer dans le jardin où il va s'arrêter. Non, il fait demi-tour. Qu'est-ce qu'il est allé faire, votre tracteur, là, tout ça ?
Il est allé tondre parce qu'on tond l'herbe qui est existante. Ensuite, on va passer l'actisol pour remuer la terre, pour casser l'enherbement. Et pour après, on va faire une herse rotative. Donc, on va mélanger cette herbe avec cette terre pour faire comme de la poussière. Et demain, on sème de la févrole, du blé, du colza pour apporter des engrais verts naturels à la vigne pour qu'au printemps prochain, on coupe ces herbes-là pour que l'azote dans la racine des engrais se diffuse dans le sol.
Donc là, on arrive dans votre petit jardin,
oui,
avez-vous dit.
Un petit jardin de curé à la française. Donc on a ici sur le domaine, on a 1600 rosiers. C'était une passion de ma mère. Du coup, vous avez tous les fuserins. Ce sont pas des buis parce que les buis ont un petit peu la cochenille. Donc tout a été remplacé par des fuserins, tout a été taillé. Et là, c'est un patchwork de rosiers. Voilà. Et après les jardins à la française, vous avez juste les vignes derrière.
Le jardin, en tous les cas les roses, ne servent en rien les vignes.
C'est juste pour faire joli et apporter mal, de la biodiversité. Voici le côté positif. Par contre, un rosier va être malade, ça va nous indiquer que la vigne va être potentiellement malade. Mais comme ce ne sont pas les mêmes souches, le rosier est d'abord malade et c'est un indicateur pour la vigne. Voilà.
Et ça voulait dire que la maladie du rosier n'atteint pas la vigne,
non,
quand même.
Non, c'est pas les mêmes souches. Et après, ici, tous les jardins, tout, on cultive bien sûr tout en bio, naturellement. Vous voyez, tout.
Vous dites bien sûr, pourquoi bien sûr?
Bah parce qu'on pourrait avoir que les vignes en bio et puis le jardin en conventionnel. Bah non, tout.
Mais ça, c'est depuis l'origine, c'est ça? C'est vos parents cultivaient déjà
non,
en bio?
C'est quand je suis revenue au domaine qu'on a tout repassé en bio. Moi, je suis dans le vin depuis 1992, en France, mais j'ai exercé ailleurs. Et en 2001, maman m'a appelée, je suis revenue pour les vendanges 2001, elle m'a donné les clés, elle m'a dit « Bon, bah voilà, maintenant c'est à toi, tu te débrouilles. De toute façon, les successions, il paraît que ça se passe toujours mal. Ici, il faut que ça se passe dans la douceur. Voilà les clés, tu te débrouilles. »
Et alors ?
Bah, je me suis débrouillée, mais c'était pas facile. Hein,
c'était pas si dans la douceur que ça.
C'était
un cadeau, mais
un beau cadeau, un petit peu empoisonné. Et puis après, moi, je suis un diesel. J'ai fait petit à petit mon petit trou. Je savais qu'il fallait faire des choses. Mais bon, on peut passer en bio, mais il faut une équipe derrière. Il faut trouver du monde, il faut trouver du personnel. Et quand tout le monde a été apte ici à tout, ça a été d'une façon tout à fait naturelle. Puis après, faut motiver les troupes, faut toujours trouver un challenge. En 2017, on a perdu 90% de notre récolte à cause du gel. Donc là, on a dit, on va passer en biodynamie, puisque de toute façon, faut lui apporter du maintien, de l'amour à cette vigne. C'est par les plantes, par la biodynamie qu'on va y arriver. Et c'est en 2017, du coup, qu'on est passé en biodynamie. Voilà.
Alors c'est bien parce qu'on va s'arrêter sur deux termes en marchant.
Oui.
On va commencer par le bio tout court. Alors, on peut marcher en même temps vers quel côté? On va à droite, on va à gauche?
Comme vous voulez.
Mais je sais pas, moi c'est vous qui connaissez votre jardin. Moi je le découvre. Hein.
On va aller faire mon petit tour normal par la droite.
Allez, faites un petit tour normal
par la droite.
Faites
c'est le sens des aiguilles d'une montre, c'est bien mon petit tour comme... Ah non, c'est le sens inverse.
Oui.
Voilà, parce qu'en biodynamie, il faut toujours faire à l'inverse. C'est comme dans votre verre, quand vous dégustez, vaut mieux tourner à l'envers pour casser le vortex et comme ça tous les arômes se développent mieux.
Voilà. Alors, commençons par le bio. Déjà, pourquoi vous, quand vous avez repris le domaine, vous vous êtes dit « je vais faire du bio ». Qu'est-ce qui vous a motivé ?
Alors, ma mère était aussi pour que ça se fasse. Donc, pour moi, c'est tout à fait naturel. C'est notre façon de vivre. C'est notre façon de déjeuner, de dîner, d'avoir tous nos repas comme ça, tout en bio, les légumes et tout ça. Donc, je me suis dit, d'abord, c'est nous qui sommes dans la vigne les premiers. On va d'abord passer en bio pour nous, pour notre environnement à nous, pour tout le cadre et après pour la plante et puis pour le consommateur. Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire cultiver des vignes en bio ?
C'est-à-dire que vous ne mettez aucun produit chimique dans la vigne, aucun produit phytosanitaire qui sont totalement nuisibles aux racines, à la biodiversité, enfin tout ça. En fait, on travaille pour enlever l'herbe, parce que l'herbe est une concurrence à la vigne quand elle est sous le rang. Donc en fait, on enlève cette herbe par le travail des charrues, comme c'était fait autrefois. Mais dans les années 70, il y a eu à un moment donné, les gens en avaient marre de travailler, puis c'était l'agriculture intensive. Donc c'était vrai que de passer un désherbant, c'était beaucoup plus facile. Voilà. Et du coup, maintenant, on est revenu à une agriculture, ça fait plus de 20 ans, où au contraire, on réutilise la charrue, née comme autrefois, mais avec des moyens modernes. On a une charrue hydraulique, on a 3 charrues sur le domaine, et on enlève l'herbe à chaque fois sous le rang pour pas faire concurrence à la vigne.
En fait, vous travaillez les sols.
Oui.
La terre.
Alors, mais on travaille les sols pas trop profondément. Parce que si on va trop en profondeur, vous enlevez toute la vie qu'il y a dans le sol. Et puis aussi pour travailler le sol, pourquoi on fait ça ? Parce que maintenant, vous avez des aléas climatiques qui sont bien présents. Par à-coup, de temps en temps, on a beaucoup d'eau. Donc il faut que l'eau soit absorbée par le sol. Si vous ne travaillez pas le sol, vous avez une couche de latence et l'eau, elle ravine. Et donc, du coup, elle va pas dans les vignes. Donc il faut travailler son sol, assouplir son sol, tout doucement, sans le tasser. Et du coup, c'est tout un travail qui doit être fait. Donc là, on va commencer à l'automne, on va commencer à travailler sous le rang pour assouplir tout ça. Et qu'au printemps, ce soit assoupli, qu'on puisse y aller, à ouvrir les sols et que l'eau qui va tomber, tombe bien dans le sol et non pas dans le ravin.
Vous nous disiez quand même que vous n'utilisiez pas de produits chimiques, de produits phytosanitaires. Mais est-ce que ces produits-là ne servent pas aussi à éliminer toutes les bêtes, hein, toutes les maladies de la vigne? Et il y en a beaucoup, alors, je crois, des maladies. C'est sensible, c'est fragile, la vigne.
Voilà, vous faites l'esca, par exemple, qui est le cancer de la vigne, qui est un champignon. Eh bien, qu'est-ce que l'on fait? On fait du curetage. Donc là, on a une petite tronçonneuse et on curte les pieds de vigne pour enlever le champignon, pour enlever tout l'amadou, pour enlever tout ce bois. Tout ça, c'est enlever tout l'hiver. C'est un gros travail, mais tout se fait manuellement, à la main.
On traverse des champs splendides.
Ah, de cyclamen.
De cyclamen.
Ah, oui. Vous allez voir, il y a des cyclamen partout. On a des crocus aussi. Ça, c'est des crocus sauvages. Voilà.
Ça, c'était pour le côté biologique de votre culture, Tessa Laroche. Oui. Vous avez dit que vous êtes passée depuis quelques années en biodynamie. Alors là, à nouveau, qu'est-ce que cela veut dire ?
La biodynamie, il y a autant de biodynamistes que de vignerons. Donc en fait, la biodynamie, c'est principalement le bon sens paysan et l'observation. C'est comme l'homéopathie. Vous y croyez, vous apportez du bien à la plante, mais vous n'avez pas du tout envie d'y croire, on peut pas vous convaincre. Donc vous avez des préparations, on peut mettre un petit peu de la silice, s'il pleut beaucoup, c'est pour assécher. Si par exemple on fait aussi pour dire à la vigne que là c'est le moment de rentrer en dormance, donc on va...
Vous dites à la vigne c'est le moment de rentrer en dormance.
Oui.
Bon,
alors là, il faut. Là, des fois, on peut être barré, hein. Mais de toute façon, un vigneron, il a un petit grain aussi.
Ah bon ?
On est un peu magicien, parce qu'on essaye de faire quelque chose. Des mains.
Avec la terre et avec la vigne.
Voilà. Et après, on parle, oui, comme je parle aux levures.
Continuons.
Oui.
Notre petit chemin. Oui. Ah ! On arrive aux vignes.
Oui.
On arrive au chemin.
Oui, alors
enfin, le chemin s'ouvre,
là c'est une allée de charme, donc c'est ce qu'on appelle la charmille, avec des cyclamens en dessous, et puis là vous arrivez, les jardins vont être terminés et vous arrivez dans les vignes. Et là, les vignes sont tout autour, donc elles sont closes. Et là, c'est ce qu'on appelle les vieilles vignes charmilles. Donc, elles sont plantées à 2 mètres. Elles vont, là, le travail que l'on va faire...
Ça veut dire quoi, elles sont plantées à 2 mètres ?
2 mètres de large entre chaque rang.
C'est pas réglementaire, c'est...
Non, nous, on plante à 1,80 m. Et là, on va rehausser tout le palissage cet automne. Donc, vous revenez dans un mois et demi, les piquets seront beaucoup plus hauts pour avoir une meilleure photosynthèse. Et aussi, comme il va faire très chaud maintenant, pour que les feuilles protègent les grappes et qu'on ait de l'ombre sur les grappes pour les années futures.
Elles ont quel âge, ces vignes-là ?
Elles ont 40 ans, c'est ma mère qui les a plantées.
Vous les taillez, une vigne est là à temps ?
La vigne est taillée tous les ans. Et on la taille à deux yeux, aiguille au double, à deux yeux de chaque côté, avec un rappel en dessous. Car si jamais il gèle, faut que ça redémarre. On a aussi le bon sens paysan, hein. Faut quand même avoir un petit peu de raisin.
On s'approche ?
Oui.
Donc là, on est à une période de post-vendange, c'est-à-dire que vous venez de terminer les vendanges.
Oui.
Donc exceptionnellement tôt cette année 2025, comme vous nous le disiez, Tessa Laroche.
Oui.
L'étape suivante, c'est quoi ?
Eh bien là, il y a une équipe qui est dans les vignes, qui donc a tondu là. Après, elle va enlever l'herbe sous le rang. Voilà. Et puis après, on va enlever les amarres au fil et tout ça. Et puis là, on va enlever tous les piquets à la main, un par un, et on les replante à la main.
Et là, les vendanges ont été faites par qui sur le terrain ? Parce que vous, c'est quand même un bon champ, hein ?
On est une équipe de... Il y a eu 25 saisonniers supplémentaires au domaine cette année par rapport à l'équipe permanente. Et voilà, ça fait un petit monde.
Alors, une fois qu'on a fait ce qu'on a dit dans les vignes, on passe de l'autre
cave.
Côté,
à la cave,
dans les chais.
Voilà, dans les chais. Donc, nous, ici, on n'a pas de cave souterraine comme à Saumur ou en Champagne qui ont été creusées dans la craie, dans le tuffeau. Ici, comme on est sur du schiste, un sol très dur, les moines n'ont pas creusé, mais ont bâti. C'est pour ça qu'on a des très belles maisons. Voilà.
On passe dans votre chais ?
Oui.
Ils travaillent là-bas, dites donc.
Oui.
Ça s'active.
Oui, mais vous savez, ils sont en train de tourner les verres, là. Ils ont des verres ils dégustent aussi.
Ah, d'accord.
Oui, ils travaillent et ils dégustent.
D'accord. Ils travaillent dans un chai, donc...
Voilà.
Et on voit les fûts, les tonneaux qui sont placés devant.
Voilà, parce que ce matin, j'ai soutiré les 2024. Nous les lavons là aujourd'hui, cet après-midi. Et demain, je les entonne avec du 2025. Voilà. Donc là, on a, vous allez voir, on a deux chais. Il y a le premier chai à gauche, où là, je suis en train de soutirer les 2024. Et il a ce que j'ai fait là. Je l'ai fait hier dans l'autre chai. Et il a entonné les 2025 pendant que je soutirais les 24. C'est la première fois cette année qu'il y a autant de monde dans le chai.
Est-ce que le matériau de vos fûts est important pour vous ?
Tout est en chêne. 100% chêne, parce que le chêne, ça va vous donner des arômes un petit peu plus...
Vous faites le geste de rondeur.
De rondeur. Ça va donner de la rondeur, de la puissance et du gras. Tandis que des fois, quand vous avez du bois qui est un petit peu plus sec, ça, on ira plus sur la tension et c'est pas ce qu'on recherche, parce qu'ici, on a des vins très minéraux. Donc, il faut au contraire apporter de la rondeur.
On peut s'approcher un petit peu de là où sont...
Oh bah oui.
Les équipes qui font tourner les verres, comme vous dites, et qui entonnent. On ne va pas rester longtemps parce qu'il y a beaucoup de bruit.
Oui.
Mais on s'approche que vous
oui,
nous disiez.
Oui, pas de souci.
Bonjour.
Voilà.
C'est une très belle allée
de tilleul.
De tilleul.
Qui est notre allée à l'ombre, où, voilà, où on est là à chaque vendange, ou aussi à l'ébourgeonnage, quand c'est la saison de l'ébourgeonnage, où on prend toujours un verre à la fin de la journée. Parce qu'il faut consommer avec modération, mais quand on travaille dans le vin, eh ben, ça donne un petit peu d'énergie aussi.
On a droit à consommer avec modération plus.
Oui. Voilà. Donc alors, là, vous arrivez véritablement dans la cave.
Dans la cave à ciel ouvert.
À ciel ouvert. Donc, vous avez notre deuxième pressoir qui est sous un abribus. parce qu'il pleut jamais pendant les vendanges, mais on ne sait jamais. Comme ça, il est à l'abri. Là, vous avez une laveuse de caisse qui est là pour laver parce qu'on ramasse tout le raisin manuellement et c'est mis dans des caisses ici à vendange, des rouges et grises qu'on alterne comme ça ne s'entasse pas. On charge les pressoirs manuellement. Et puis là, dans le grand chai, c'est toute la cuverie inox. Donc, parce que c'est comme en cuisine. Quand vous allez en cuisine, vous avez le chef, il a sa véritable cuisine, son laboratoire. Puis après, il a sa cuisine d'apparat. Et ben nous, c'est pareil. On a la cuisine, le laboratoire où toute la cuverie est en cuve inox avec la thermorégulation et sous azote puisqu'on travaille sans intrants. Et puis après, on a nos chais d'apparat où tout est en tomate, tout est à la chaux et on a nos belles barriques dedans. Voilà.
On va voir oui. La belle alors.
Là, on va voir, voilà. C'est Florian qui a préparé le chai pendant que je soutirais.
Expliquez-nous ce que vous faites là.
Je suis en train de laver les barriques avec une canne mug en fait qui lave à l'intérieur de la barrique avec de l'eau chaude, l'eau très chaude à 90 degrés pour vraiment décoller tout le tartre dedans et assainir toute la barrique. Voilà, pour pouvoir les remettre en place et les remplir après avec le millésime qu'on vient de récolter.
Cette barrique-là, elle a servi à une cuvée précédente, donc il faut la laver avant de remplir à nouveau la barrique, c'est ça l'idée ?
C'est bien ça, oui, voilà, c'est ça.
Et on fait ça de manière naturelle, donc c'est que de l'eau et de l'eau chaude. On met aucun produit chimique dedans. Et après, il va rincer à l'eau froide.
Et là, on a devant nous cette formidable... Hop, je marche par-dessus les gros tuyaux. On a ce formidable chai avec les cuves d'apparat, là. Mais qu'est-ce que c'est qui bouille par-dessus ?
Alors là, ce sont des barboteurs. Dedans, Florian a mis du 2025 dans les barriques. Et là, les barboteurs, ça vous prouve que ça fermente bien. Voilà. Et on a un extracteur de gaz carbonique parce que c'est le gaz qui s'échappe de l'intérieur qui va se mettre dans l'atmosphère. Du coup, les portes sont ouvertes et on a un extracteur. Cette nuit, on va mettre en route l'extracteur parce que sinon, demain matin, si j'ouvre les portes, je meurs directement sur place à cause du gaz. Voilà. Donc, on a un extracteur.
Est-ce que ça sera une bonne cuvée, la cuvée 2025, Tessa Laroche ?
Alors... c'est pas encore fini, mais ça va pas être mal. Pour l'instant, on est que sur les bons papiers qui disent que ça va être très grand.
Et pourtant, il a fait extrêmement chaud cette année.
Oui, mais on a un bel équilibre. Si on sait vinifier et si j'arrive à amener toutes les fermentations jusqu'au bout, on aura fait un grand vin.
Alors maintenant, il va falloir qu'on parle de vos vins quand même, Tessa Laroche. Pascaline Lepelletier, qui est une très grande sommelière, qui a remporté beaucoup de concours des meilleurs sommeliers de France, d'Europe, peut-être du monde un jour, dit que vous faites, là, fermez les oreilles presque, mais l'un des meilleurs chenins qui soit, à sa connaissance. Alors qu'est-ce que votre chenin a de si particulier, vous qui le faites ?
Déjà, on a un terroir magnifique. Donc ça aide. On a une exposition fantastique et on fait tout pour avoir les meilleurs raisins. Et puis après, on a juste à accompagner pour que tout se passe bien. Et puis c'est le ressenti, ce qu'on ressent à la vigne, à la cave. C'est comme un bon chef, il a des bons produits, il transforme ça.
C'est ce que j'allais vous dire, ça se fait pas tout seul. Qu'est-ce que vous faites vous ? À partir de quel moment vous intervenez ?
On essaye que la vigne respire, qu'elle ait un végétal qui se sente en belle harmonie, tout ça, qu'il n'y ait pas de maladie, que quand on est en année de sécheresse, il faut quand même qu'il y ait de l'eau, donc il faut travailler un bon binage, deux arrosages, enfin. Puis une fois qu'on a du bon raisin, faut une bonne équipe et puis il faut un pressurage. Et le pressurage, ça passe par les pressoirs, parce que tous nos raisins passent par le pressoir. Il faut sentir le raisin, il faut le goûter, il faut voir goûter les jus, comment on les sent, comment on peut améliorer, et surtout ne pas extraire les mauvaises choses, donc pas extraire trop de tanins ni d'amertume. Voilà, c'est un chef, il sent sa cuisine, quand il a tous ses légumes, c'est pareil.
À quel moment la récolte 2025 donnera du vin en bouteille ?
Alors, le berceau des fées 2025 sortira au printemps 2026. Voilà, parce que ça, c'est un élevage 100% cuve. C'est uniquement les jeunes vignes du domaine. Et par contre, la Roche aux Moines, la cuvée Domaine aux Moines 2025 sortira en mai 2027. Pas tout de suite.
Vous avez deux types de vins?
Oui, les jeunes vignes, le berceau des fées 100% cuve et le Domaine aux Moines, un élevage en barrique et en foudre.
Parce que le Domaine aux Moines, il est plus vieux.
Oui, c'est des vignes qui ont besoin de corps, de prestance. Et du coup, on fait des élevages beaucoup plus longs. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup.
Eh ben, je vous
en prie. Tessa Laroche. À 12h25 dans Les Bonnes Chaussures France Culture, c'est l'heure du dialogue des cuisines avec Maurice Acco. Maurice, c'est à vous.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler du vinaigre. Juste à l'énoncé du nom, on peut deviner sa composition. Vinaigre provenant de vin aigre, car le vinaigre n'est autre que du vin que l'on laisse tourner à l'air libre. Sous l'effet d'une bactérie, l'alcool présent dans le vin se transforme en acide acétique. On peut donc facilement dater l'apparition des vinaigres à plus de 5000 ans en arrière, en Mésopotamie plus précisément. À peu près en même temps que l'apparition des premiers vins. Le vinaigre a depuis toujours eu une double utilisation. Comme conservateur en premier lieu, car son acidité empêche les aliments de se dégrader, ce qui donna naissance aux pickles, entre autres, mais surtout comme condiment. Chez les Romains, c'était la posca, une boisson composée d'eau et de vinaigre qu'ils emportaient dans toute leur campagne. Au Moyen-Âge, le vinaigre était extrêmement populaire pour ses deux usages, mais il fut aussi utilisé de manière thérapeutique pour soigner la peste, la lèpre ou encore les morsures des serpents. On s'en servait même pour désinfecter les plaies. Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'origine scientifique du vinaigre fut percée, grâce à Louis Pasteur, qui donna un nom à la bactérie responsable, Mycoderma aceti, qui fixe l'oxygène de l'air sur l'alcool et le transforme en acide. Il n'est donc pas obligatoire d'avoir du vin pour faire du vinaigre, mais juste d'un liquide contenant de l'alcool, d'où les différents vinaigres dont on extrait du vin. Que ce soit pour manger, conserver, boire, soigner, désinfecter ou même nettoyer, le vinaigre est un élément indispensable de nos vies. Je pense qu'on peut parler à juste titre d'ingrédients miracles. Je vais maintenant vous partager non pas un, mais deux tips avec les vinaigres. Le premier est mon condiment vinaigré préféré. Il s'agit du tosasu, un condiment japonais. Il vous suffit de mélanger à hauteur de 2/4 de vinaigre de riz, 1/4 de mirin et 1/4 de dashi. Je ne vais pas vous expliquer la recette du dashi, car selon moi, il mérite sa propre chronique. Revenons à la recette. Portez votre mélange à frémissement, avec un morceau de kombu, puis ajoutez une pincée de katsuobushi et laissez infuser 48 heures au frais minimum. Ce condiment est juste magique. Il marche très bien avec les coquillages, mais vous pouvez l'utiliser pour faire des vinaigrettes ou sur du poisson. Pour le second tips, il ne s'agit non pas d'une recette, mais d'un réflexe anti-gaspi. Le vinaigre est un excellent conservateur. Donc lorsque, par exemple, vous coupez un ananas, ne jetez pas les pelures et le bois. Mettez-les à macérer environ 2 mois dans du vinaigre et vous aurez un vinaigre à l'ananas. Cette technique fonctionne aussi avec les queues, les noyaux de cerises ou encore les tiges d'herbes aromatiques. Bref, pour limite, vous n'avez que votre créativité. À vous de jouer maintenant.
Oui, d'accord, Maury, mais vous nous avez dit que vous ne nous donneriez pas la recette du dashi qui méritait, selon vous, une chronique à part entière. J'espère qu'on l'aura. Mais c'est quoi le mirin?
Le mirin, c'est un saké de cuisine. Donc, c'est un saké qui est légèrement plus sucré et qui contient très peu d'alcool.
Merci, Maury. À la semaine prochaine. Toutes les informations, les adresses, les références sont à retrouver sur franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France. Les bonnes choses ont été préparées avec Léa Varin, Jean-Christophe Francis était à la réalisation, Yvon Croisier à la prise de son. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de France Culture.